Bonjour à tous, 16h30, 21h, c'est Radio Shalom. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue.
Marc et Maggie, saison 2, encore plus de bienveillance, encore plus d'amour, encore plus de musique, encore plus de plus de tout.
Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Shalom, c'était pas prévu au programme, nous sommes jeudi 28 avril. Bonjour Marc, comment vas-tu?
Bonjour Maggie, bonjour Arnaud, nous allons
bonjour
très bien.
Bonjour Arnaud, écoutez, cette semaine on vous a pas beaucoup parlé, nous étions assez occupés, mais on va se rattraper aujourd'hui et je vous laisse découvrir avec Marc ce que nous allons faire et de quoi et de qui nous allons parler.
16h30, aujourd'hui nous recevons tout d'abord un passionné de musique. Musique en général, musique française, qui ouvre son premier magasin. Et oui, je vous donne dans le mille, à 17 ans. À 17 ans, il ouvre son premier magasin de musique. J'étais encore sous forme de chromosome. Passionné notamment de musique, passionné de sport, passionné de foot. Il a failli faire ses premières armes à l'AS Monaco. Et oui, personne ne le sait, mais moi je le sais, c'est comme ça. Et il a fait surtout ses armes à Europe 1. Il est également suppléant de Marc Toesca pour ceux qui ont connu les années 80. Salut les petits clous, top 50. En 1991, il présente même musique, une émission de musique sur France 2. Il anime une émission de musique, il collabore, alors le mot collaboré quand t'as à Radio Shalom, t'as du mal à le dire, mais c'est vrai, il collabore avec Libération, il collabore également avec d'autres magazines comme Guitare et Clavier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Guitare et Clavier, tant pis pour eux, c'est Guitare et Clavier. Et notamment avec le magazine Rolling Stone, tout est dans nom. Tout en présentant sur France Inter la fameuse émission, le Stop 50.
Ah oui.
Car avant, il a été au top 5. Il devient un directeur des programmes de France Inter. Alors là, on enchaîne. En 92, il devient rédacteur en chef de l'émission Rapido. Tu sais, l'émission qui
bien
va très vite comme ça,
de Antoine Decaune.
Ceux qui ne savent pas qui est Antoine Decaune, tant pis pour eux.
Et
puis, il devient également directeur de Fnac Musique Production. En 98, il est président des Victoires de la Musique. En 2005, PDG de France Télévisions. En 2008, il est également directeur d'Endemol. En 2010, il devient PDG au directeur de RTL. Et enfin, en 2012-2013, il prend ses fonctions en 2013, il devient PDG de TV5 Monde, l'émission quelque part la plus regardée dans le monde, puisque c'est diffusé dans tous les réseaux. Et en 2020, pour ne rien gâcher au plaisir, il devient le directeur, on peut dire directeur de l'Alliance française, de l'Alliance de France. Alors, qui est ce personnage? Non, c'est un certain Yves. Non, ce n'est pas Yves Régnier, pas son âme. Yves Régnier, commissaire Moulin. Non, non. Ce n'est pas Yves Jamais non plus. Ce n'est pas Yves Duteil qui va nous danser la tarentelle ou qui va nous parler de son enfant qu'on prend par la main. Non, non. Ce n'est pas Yves Simon. Quoique peut-être qu'il a rêvé aussi de New York comme Yves Simon. Nous recevons aujourd'hui monsieur Yves Bigot. Enchanté, monsieur Yves Bigot.
Voilà, bienvenue. Hein.
Merci beaucoup.
Ouais. Et ce n'est pas fini. Qui va nous parler de qui? D'un autre Michel.
Ben oui.
Un Michel très connu. Non, ce n'est pas Michel Jonas.
Non.
Pourtant, ils ont le blues tous les deux. Parfois. Mmh. Ça aurait pu être un Michel Delpech. Non, ce n'est pas Michel Delpech. Non, non plus Michel Polnareff, quoique Lettre à France aurait pu être écrite
par celui dont on va parler.
Par celui dont on va parler. Non, c'est un autre Michel qui ne voulait pas être une sorte de troubadour, mais plutôt on le considérait comme un philosophe de la chanson française. Comme le dit page 24, ça c'est pour pas que j'ai lu le livre, Michel Drucker, si tu veux connaître Michel, il faut connaître le monde de culture dans lequel il est né et dans lequel il a vécu. Mmh. Car c'était un esthète de la musique. Aujourd'hui, nous recevons Yves Bigot qui va nous parler de Michel Berger. Et pour ne pas faire beaucoup de bruit pour rien, hashtag Kenneth Branagh, nous allons plutôt faire une minute de silence.
Espoir, tu verras les brouillons dans leur cachet pour voir. Tu sortiras les 10 de leur pochette. Notre histoire. Tu la verras défiler dans ta tête. Alors chute, pose doucement un doigt devant ta bouche et lutte en face de ta mémoire ces mots qui nous touchent. Brute ces images qui nous plongent dans la solitude. Écoute ce qu'il reste de nous, immobile et debout, une minute de silence. Ce qu'il reste, c'est tout.
Ben merci pour ce premier cadeau, Marc, et bienvenue donc, Yves. avec
Merci.
Nous sur Radio Shalom. Bonjour, voilà, au bout de 4 minutes, il réussit à dire bonjour. Là, on a bien... Mais on se faisait vraiment un honneur de te présenter aux auditeurs de Radio Shalom, parce que c'est, pour nous, c'est une très jolie rencontre et on a appris beaucoup, beaucoup de choses sur Michel Berger. Alors, hors antenne, tu as bien compris que... Vous avez bien compris, pardon. Vous avez bien compris que Marc était un passionné en plus de Michel Berger. C'est pour ça qu'on avait très envie de vous rencontrer, que vous nous racontiez des petites choses que tout le monde ne sait pas. D'abord, vous connaissiez personnellement Michel Berger ?
Oui, je l'ai rencontré, c'était début 1982, où j'avais une émission de rock la nuit sur Europe 1. Et France et lui étaient invités de l'émission de Christian Barbier, qui précédait la mienne. Et pendant le flash d'information, ils sont venus tous les deux, tout timides, gentils, dire bonsoir, voilà, on ne vous connaît pas, on vous laisse présenter, parce qu'on vous écoute très souvent, on trouve que votre émission est super, etc. Alors, on voulait dire bonjour, etc. C'était
mignon.
Absolument, ouais, voilà, ils étaient charmants tous les deux. Et puis après, ben, ils sont voilà, devenus non seulement des abonnés de mes différentes émissions, et puis notamment avec Michel, on a entamé un peu un dialogue, parfois très engagé, hein, sur voilà, ce que c'était de faire de la musique en France et de se prendre pour une rockstar dans un pays où, en dehors de Johnny, il n'y en a pas d'autre.
C'est pas mal, ça.
Non, mais quand tu lis son livre, tu comprends, en fait, je le disais en off, tout le cheminement pour réussir déjà à réussir dans le monde de la musique. Mais en plus, Michel Berger n'avait pas la voix d'une rockstar. Et pourtant, il aimait tout ce milieu. C'est ce que nous explique Yves. Il aimait les États-Unis, il aimait... Donc, moi, j'aimerais savoir, en fait... Comment ça s'est passé dans sa tête du passage où il est devenu, parce qu'il était producteur de musique, on dit producteur, pas financier, mais producteur, il réalisait la musique.
Oui, oui, oui. Oui.
Comment ça s'est passé dans son état d'esprit pour se lancer ?
Pour faire le switch, en fait, de se dire, allez, aujourd'hui, c'est moi qui...
Ben, en fait, il s'était déjà lancé avant, oui, hein, puisque à 15 ans, hein, il avait débuté une carrière de chanteur yéyé avec un petit succès. Hein. Il était notamment soutenu par Daniel Philippaki et l'émission et le magazine Salut les copains, puisqu'il figure, hein, sur cette photo historique.
Oui, c'est vrai qu'il est sur cette photo.
Jean-Marie Perrier, hein, et où il est à côté de France Gall, qui a débuté en même temps que lui, mais que Françoise Hardy ou Johnny Hallyday, pour lesquels il écrira par la suite. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a compris lors d'un voyage aux États-Unis et puis à mesure que son succès yéyé aussi s'étiolait, que en fait, il avait raté le bon wagon d'un seul coup aux États-Unis. Il a découvert tout le rock américain incroyable de la fin des années 60 et il a compris qu'il ne pouvait pas être lui un interprète dans ce monde-là. Donc il a décidé de devenir compositeur. D'abord de musique instrumentale, hein, il a même publié son premier album sous son nom, ça s'appelle Puzzle, voilà, c'est une composition pour orchestre et groupe de rock. Et puis il est devenu réalisateur et producteur pour d'autres, mais il n'a jamais vraiment abandonné l'idée, lui, de chanter, mais il a en revanche intégré assez vite qu'effectivement, avec sa voix un peu frêle, il ne pourrait pas être... ni rockstar comme Johnny, ni même un interprète qui toucherait le cœur d'autant de millions de gens en France, comme c'est le cas de France Gall, de Françoise Hardy ou de Daniel Balavoine ou d'autres pour lesquels il a écrit, notamment dans Starmania.
Mm-hmm. Alors moi j'adore, il y a une phrase qu'il dit dans le livre, et c'est tellement ça en fait. Quand il a fait son premier single, enfin c'est pas son premier single, mais disons que le premier single qui a eu un peu de succès, c'est Voyou Voyou.
Oui.
Voilà. Mais il n'a pas eu le succès rencontré. Et vous le dites très justement, et c'est écrit, il dit, mais Michel Berger qui chante Voyou Voyou, c'est pas possible, parce que c'est
ça
pas
va.
Un voyou, ça,
ça
va pas avec
ensemble.
Lui. Donc en fait, et c'est vrai qu'on dit toujours, quand tu chantes, il faut ressentir ce que tu chantes, sinon les gens... Et c'est vrai que même si la chanson était bonne, à la limite, Johnny l'aurait chanté, peut-être que... Il vient de ce milieu-là, non ?
Alors Johnny l'aurait pas chanté.
Non, il l'aurait pas chanté, voilà. Voilà. Il a chanté plus tard quelque chose de Tennessee qui était juste un tube international presque, mais qui était magique. Mais non, mais en fait, quand tu vois tout le cheminement, c'est... Il y a des choses, quand même, on peut le dire.
Il faut acheter le livre, bien entendu.
Il est magique parce que vous allez, pour ceux qui aiment Berger, pour ceux qui aiment la musique en règle générale, il est rempli de plein de petites anecdotes et on a vraiment l'impression, quand on lit le livre, qu'on est à côté de Michel Berger. On voit des conversations faites, parce qu'ils racontent des choses qui se sont passées, mais on sent qu'ils le connaissaient, vraiment. Parce qu'il y a des biographes qui ne connaissent pas les artistes.
C'est vrai, c'est vrai.
Et là, c'est ça qui m'a touché, moi, c'est quand
même. Parce que c'est très personnel, en fait. Très personnel.
Oui, en tous les cas, pas personnel pour moi, mais en tous les cas, je connaissais très bien la grande majorité des intervenants dans ce livre, Michel Berger, France Gall, Véronique Sanson, Daniel Balavoine, Bernard de Bosson, qui les a tous signés chez Warner, leurs musiciens. J'avais accès au contrat, hein, même, de Michel.
Oui. Ah oui.
Et de France, Luc Plamondon, hein, aussi le librettiste de Starmania. Voilà, je connaissais à peu près tous les gens qui intervenaient dans cette histoire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu écrire cette biographie, parce que écrire sur des choses qu'on connaît pas, moi, ça m'intéresse pas beaucoup.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est une
ou ça m'intéresse comme journaliste en tous les cas, mais pas comme biographe.
Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est vrai que
parce que pour pouvoir dire les choses et avoir un regard un peu intéressant sur les choses, faut les connaître de l'intérieur. Il faut avoir une partie des clés, je ne les ai pas toutes, hein. Je ne prétends pas être dans la tête de Michel Berger, mais enfin, voilà. D'abord, je peux avoir tous les témoignages de tous ceux voilà, qui l'ont fréquenté, dans sa jeunesse comme par la suite. Mmh. Et voilà, ça permet de cerner quand même assez bien le personnage.
Ouais, alors j'allais dire, en fait, c'est vrai que c'est une biographie que vous avez écrite déjà il y a 3-4 ans, c'est ça?
Non,
c'est
j'ai publié une première version il y a 10 ans.
Oui, 10 ans, voilà.
C'était pour les 20 ans de la mort de Michel. Et donc, en fait, je la réédite aujourd'hui, mais avec beaucoup de nouvelles choses. Pour ce qui sera le 2 août, les 30 ans.
Les 30 ans de la disparition.
De sa disparition. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Grosso modo, il y a 3 choses. Il n'y a que depuis, France Gall nous a quittés.
Oui.
Donc, j'ai rajouté beaucoup de choses sur France qui n'étaient pas dans le premier volume, parce que je ne voulais pas qu'elle mange sur l'aura et la notoriété de Michel, d'une part. D'autre part, parce que vous savez, quand vous publiez une biographie, il y a des tas de gens qui ne vous disent pas des choses ou qui ne veulent pas vous parler. Puis une fois qu'elle est publiée, ils viennent vous voir en disant « Ah, mais pourquoi tu n'as pas dit ça ? Mais ouais. Tu m'aurais demandé,
je t'aurais dit
ça. » Donc voilà, j'ai rajouté évidemment tout ce qu'on m'a dit après.
C'est très fin, j'adore. Tout le monde devrait faire ça d'ailleurs.
Et mais oui.
Première édition, deuxième édition.
Oh non, t'es salaud, tu m'as pas appelé, moi j'aurais bien voulu témoigner.
C'est génial.
Ah bah tiens.
Non, et des tas de gens que j'avais appelés mais qui eux ne m'avaient pas rappelé.
Ouais, voilà. C'est génial.
Et puis aussi, surtout, j'ai rencontré, alors je parlais d'elle dans la première version, mais j'ai rencontré entre-temps le dernier amour de Michel Berger. Donc le top modèle allemand avec qui il avait l'intention de partir s'installer à Los Angeles pour la phase suivante de sa vie et de sa carrière.
Mmh. Alors avant de laisser passer les rêves, on va laisser passer la pub.
Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait la pub quand même.
16h30, 17h, Marc et Maggie sur Radio Shalom.
Alors vous êtes toujours sur Radio Shalom, nous sommes en compagnie de monsieur Yves Bigot pour le livre La biographie de Michel Berger. On se régale, on apprend plein de choses et surtout, pour ceux qui auraient lu cette biographie il y a déjà 10 ans, sachez que cette deuxième édition est encore plus belle et croustillante que la première parce qu'il y a toutes les choses qu'il n'a pas pu dire dans la première version. Et je trouve ça génial parce qu'il nous racontait tout à l'heure hors antenne et un petit peu à l'antenne que beaucoup de personnes qu'il avait contactées donc, en écrivant cette biographie il y a 10 ans lui ont jamais vraiment répondu lorsqu'il les appelait pour avoir des informations supplémentaires ou voilà, ça restait un peu en suspens. Puis finalement, une fois que le livre a été édité, ils ont téléphoné en lui disant « Mais tu sais, nous, on aurait pu te raconter ça, hein, je me trompe pas, Yves. »
Et je vais vous dire, c'est terrible, c'est souvent beaucoup des gens que je rencontrais dans des enterrements.
Oh, quelle horreur.
Non, mais qui doit être un lieu où, en raison de l'émotion qui est ressentie, on se livre et on parle plus facilement. Et on parle notamment de ceux qui sont disparus, ce qui est le cas de Michel.
C'est dingue. Oui.
Une chose qui n'a rien à voir avec la musique et qui m'a beaucoup touché dans le livre. Mmh. Alors, il avait un rapport très compliqué avec son père, parce que son père était aussi intelligent et doué que très dur, et je vais laisser planer le doute, lisez-le, vous comprendrez. Ouais. Mais à un moment, il a repris contact avec son père, il a avalé à la fois sa pudeur, son ego, pour ses amis et même pour sa fille, qui était malade, parce qu'il savait que son père était un grand praticien, et t'imagines la situation. Et je le disais tout à l'heure en off, quand je vois la photo de Michel Berger, je vous assure, Yves, à chaque fois, ça me fait cet effet-là. Même quand il chantait, des fois, on a l'impression d'avoir un mec qui dit...
Écorché vif, moi, je dis.
Ouais, mais excuse-moi, je suis là, je suis bon, je sais faire de la musique. Et en plus, s'il savait que 30 ans plus tard, elle serait toujours au top, parce Berger, tu peux l'écouter, ça se démode pas, quoi.
Mais je trouve que écorché vif, ça lui va bien, vous trouvez pas, Yves ?
Alors, oui, mais non.
Oui, mais non.
Parce que, en tous les cas, c'est quelque chose qui était très, très enfoui en lui, parce qu'il était d'éducation protestante. Hein. Mm-hmm. Son père, donc le grand professeur Jean Burger, triple académicien, qu'il a abandonné quand Michel avait pas encore 7 ans, hein, mais avait donné à ses enfants et sa mère, hein, la concertiste suisse Annette, a une éducation protestante très très stricte. Donc Michel, c'était quelqu'un de très cérébral en fait, en réalité. Tout chez lui était conceptuel. D'ailleurs, on le voit, les paroles de ses chansons, elles ont l'air souvent assez simples. Elles sont très directes. Donc c'est pas du tout la recherche poétique de la chanson française, hein, les Brassens, Ferré, etc.
On lui a reproché parce qu'on l'a comparé à Gainsbourg souvent justement sur l'écriture. On disait Gainsbourg était plus certains se permettaient de dire Gainsbourg était plus fin et plus recherché que Berger, c'est plus...
C'était très direct, mais en réalité, quand on regarde bien... D'ailleurs, il souffrait beaucoup, Michel, de ne pas être reconnu comme un très bon parolier, mais en fait, il y a toujours plusieurs sens dans tout ce qu'il
dit.
Et si vous regardez, c'est des aphorismes à tour de bras dans ses chansons. Des petites choses comme ça, parfois. Mes projets, c'est continuer. C'est difficile d'être un homme aussi. Ça, pour vous ça ne veut rien dire pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup.
Ouais.
Voilà des tas de choses comme ça qui marquent. Rock'n'roll attitude, hein, c'est lui qui a inventé l'expression.
C'est vrai. Hein.
Et excuse-moi, alors moi je parle comme un gamin, mais pour toute ma génération, il a rendu Johnny à l'idée intellectuelle. Qui était une rockstar il a donné un côté à Johnny comme Nathalie Baye que personne
c'est
n'aurait
vrai.
Pu donner
non, c'est vrai,
et Dieu sait que j'aime Goldman, mais l'album qu'a fait Berger, pour moi c'est un des plus beaux albums que j'ai jamais écouté. Il aurait pu être chanté en anglais, je trouve qu'il a personne n'a fait ce qu'il a fait pour Johnny, hein. c'est personnel, encore une fois c'est pas un jugement, je sais pas si vous êtes d'accord, mais
non, mais c'était un des grands talents de Michel Berger, ils sont multiples, mais c'est d'avoir toujours su quand il écrivait pour des interprètes que c'était, alors juste pour trois chansons, Françoise Hardy, pour toute une carrière France Gall, ou pour un album Johnny Hallyday, il était capable d'écrire pour eux comme s'ils avaient eux-mêmes écrit ces choses-là.
Mais quelle force !
C'est en ça que c'est un véritable producteur et un véritable artiste conceptuel. Il a fait écrire, alors, je suis d'accord avec vous pour Johnny, mais il a fait il a fait chanter à France Gall des choses incroyables. Il l'a fait devenir la grande sœur ou la meilleure amie de toutes les adolescentes et jeunes filles françaises, parce qu'il était capable d'exprimer des sentiments, alors pour le coup vraiment féminins, et des petites chansons, alors petites pas toujours, hein, mais ce que je veux dire, c'est pas forcément des tubes, mais des chansons comme alors Si Maman Si, qui a été un tube, mais Je Saurais Être Ton Ami, La Fille de Shannon, Ce Soir Je Ne Dors Pas, etc.
J'adore cette chanson.
C'est incroyable, cette capacité qu'il avait à se mettre dans la peau de ses interprètes, y compris en faisant cette fameuse métathèse sexuelle, hein, c'est-à-dire d'écrire pour un genre qui n'est pas le vôtre, qui est quelque chose d'ailleurs qui est relativement rare. Alors évidemment, il y a Madame Bovary, hein, mais c'est assez rare dans la littérature française, alors que dans la littérature anglaise, c'est extrêmement pratiqué, de Shakespeare à William Blake, Swinburne, Lord Byron, Percy Shelley, etc. Tous pratiquaient ça, c'est-à-dire écrivaient pour des personnages féminins.
C'est extraordinaire. Quand il se mettait à écrire pour un artiste, par exemple, on va pas parler de France Gall parce que c'était sa femme pendant quand même de longues années, donc c'était facile de se mettre dans sa peau, mais par exemple quand il a commencé à décider d'écrire pour Johnny, par exemple, est-ce que c'était le genre d'artiste à s'enfermer avec Johnny, à se mettre tous les deux pendant de longues semaines ensemble, comment ça se passait concrètement, vous le savez ou pas?
Avec Johnny, je ne crois pas. Je veux dire, ils se sont parlé beaucoup, hein, parce qu'il fallait que Michel sache ce que Johnny avait en lui. Notamment, hein, quelque chose de Tennessee, c'est venu du fait que Johnny lui parlait beaucoup de sa lecture de Tennessee Williams, de son amour pour ses textes. D'ailleurs, il a joué Tennessee Williams
au théâtre
Édouard VII à Paris, de manière absolument remarquable. Donc, il y a eu évidemment un échange comme ça, etc. Mais s'enfermer avec... D'abord, Johnny s'enferme jamais.
Voilà, c'est la première chose. En fait. Il s'enferme pas, Johnny.
Voilà, donc ça, c'était pas possible. Non, je pense que Michel, c'était curieux. C'est-à-dire, à la fois, c'était quelqu'un... C'était un workaholic. et en même temps quelqu'un de totalement bordélique, contrairement à ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, moi, il me le racontait sans arrêt. Il disait, mais viens chez moi, tu verras le merdier de cassettes que j'ai partout autour de mon piano. Et puis, je les perds tout le temps, j'oublie de les annoter, donc après, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Et il disait, et évidemment, je perds toujours la cassette dans laquelle il y a les meilleures chansons que j'ai écrites de ma vie et que je ne retrouverai jamais parce que je ne sais plus où est passée cette foutue cassette.
Génial. Voilà.
Mais oui, c'était, en tous les cas, c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup pour répondre précisément à votre question. Il se creusait vraiment la tête, non seulement sur les chansons, mais sur le monde. Il avait fait des études de philosophie, hein, donc il y avait quelque chose de philosophique dans ses chansons, mais dans son être aussi. On le voit beaucoup d'ailleurs dans les chansons vers la fin de sa vie, hein. Le paradis blanc, chanté pour ceux qui sont loin de chez eux, etc.
Vous savez que vous avez beaucoup de chance de l'avoir rencontré et d'avoir été ami avec lui comme ça. Je vous le dis, ça c'est à titre personnel, je vous envie beaucoup.
J'ai fait un beau métier, ouais.
Ah, oui,
pour corroborer ce que Yves dit, ouais, c'est déjà 16h52. Il y a aussi une chose qui m'a frappé, c'est quand il a travaillé avec Véronique Sanson.
Ouais.
Bon, déjà, il faut savoir qu'au départ, Amoureuse, donc c'est écrit dans le livre.
C'est écrit dans le livre.
C'était pas le tube qu'il est aujourd'hui. Il a mis du temps à s'installer dans la tête des Français. Ils avaient vendu 100 000 albums. Mais à l'époque, 100 000, c'était beaucoup et pas beaucoup. Puisqu'on vendait des millions d'albums.
Ah oui, à l'époque, ça se vendait bien.
Voilà. Mais non, mais c'est surtout le travail qu'il a fait avec Véronique Sanson. Parce qu'il a dit, voilà, je résume ce que j'ai lu.
Ouais.
Il a un diamant à l'état brut, mais elle part dans tous les sens. Elle sait pas les harmonies. Il lui expliquait. C'est pour ça que tu as l'impression d'être à côté d'eux.
Parce qu'elle posait ses...
Ouais, mais c'est marrant parce que quand t'es musicien, tu comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que même quand t'es pas musicien, hein, c'est ça. En fait, elle me dit non, mais elle pose ses accords, etc. Elle a des belles mélodies, mais faut faire une harmonie. Des fois, c'est une note qui va changer quelque chose. Et il a pris le temps de lui expliquer. Il a fait son travail de producteur de musique.
Ouais.
Et je trouve ça extraordinaire parce que t'imagines, Véronique Sanson, elle a 20 piges, lui aussi. Et ils sont tous les deux, ils sont en train de créer la musique qui aujourd'hui on l'écoute toujours.
Mais toutes les générations. Mais... Amoureuse, moi, mes enfants et mes petits-enfants connaissent Amoureuse. Tu connais Arnaud, rassure-moi. Ah, t'es obligé, tu vas être obligé de l'écouter juste après. Tu la connais, tu sais pas que ça s'appelle Amoureuse, mais tu la connais.
Amoureuse, alors c'est d'abord une mélodie absolument inouïe.
Ah oui.
Tout l'album est remarquable. Ils y ont travaillé pendant des mois et des mois avant de rentrer en studio pour réfléchir, conceptualiser, encore une fois, ce qu'ils allaient faire. Mais ce qui est. Alors, la chanson elle-même, en fait, elle raconte la première nuit qu'ils ont passée ensemble. Et elle dit, mais je sais qu'on nous l'interdit, puisqu'ils habitaient chez leurs parents quand même. À cette époque-là, à 20 ans, on habitait chez ses parents. Ouais. Et comme elle le dit, on sortait avec, mais on rentrait sans.
J'adore, c'est génial. En tout cas, il faut absolument, mesdames et messieurs, sachez que, vous savez, il y a l'été qui arrive maintenant, donc on adore partir avec de bons livres et s'installer... à la plage. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller acheter ce livre qui s'appelle donc tout simplement Michel Berger, qui est écrit par monsieur Yves Bigot aux éditions Seuil. C'est une édition augmentée, ce qu'on appelle augmentée. Vous prenez ce livre, vous mettez un casque sur vos oreilles, vous mettez du Michel Berger et vous lisez le livre en même temps. Je m'imagine très bien faire ça sur la plage cet été et je vous conseille vraiment de le faire parce qu'il y en a un qui l'a fait pendant quelques jours sans être à la plage, c'est Marc Fichel, et croyez-moi, il a adoré et je suis ravie parce que du coup maintenant c'est moi qui vais le lire parce qu'on se passe, livres.
Pour faire un parallèle avec Jean-Jacques Goldman, parce que souvent, c'est pas qu'on les compare, c'est que ce sont des faiseurs de tubes.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
C'est deux façons de travailler différentes. Oui. Mais je dirais que Michel Berger m'a donné l'envie d'avoir envie d'écrire de la musique. Parce que vraiment,
Mais je crois qu'il a donné l'envie à beaucoup d'artistes. Ouais, hein. Je crois vraiment qu'il a été le déclencheur chez beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui.
Quand il joue du piano, il a... Enfin bon, moi qui suis pianiste à la base, c'est de la funk presque, parce qu'il est... quand t'entends le Prince des Villes à la fin, comment ça groove, etc.
Ouais, ouais.
Je sais pas si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui savent le faire.
Bah, c'est son inspiration initiale, c'était Ray Charles. Hein, bah, donc voilà. Il a toujours aimé la soul, Stevie Wonder, etc. Et oui, c'est une de ses particularités, ce qu'il a apporté. Et Véronique Sanson, même s'ils n'ont jamais écrit une seule chanson ensemble,
mais
ils ont inventé ce style ensemble. Ce qu'il a apporté, c'est ça, c'est cet aspect rythmique, cet aspect soul et le phrasé qui va avec. C'est-à-dire le bon mot sur la bonne note et qui va swinguer avec des harmonies riches. Et ce phrasé qui, du coup, donne du sens à la fois musical et donc à la mémoire, parce que du coup, on l'intègre, et en même temps qui donne du sens au sentiment et surtout de la sincérité.
Ouais, c'est un joli mot de la fin. On est déjà obligé de se quitter.
Non, mais là, je veux juste dire une petite blague sur les. Parce que bon, il était protestant. Oui, il était protestant. Mais il était quand même juif, parce que quand, oui. quand on est juif, on peut se convertir, mais on reste juif. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Mmh. on est élu ou on a la tarte jusqu'au bout.
On a le tampon.
Voilà. Vous savez, Yves, pourquoi les juifs ashkénazes ne prennent pas de Doliprane?
Alors, non.
Parce que malheureusement, ça soulage. Voilà. C'était le petit mot de la fin.
C'est le petit mot de la fin. En tout cas, nous sommes ravis, Marc et moi, de vous avoir reçus. Franchement. Ouais,
merci beaucoup à vous.
Et c'était un honneur. Et vous revenez quand vous voulez avec une autre biographie, parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à raconter, hein, si je ne me trompe pas. Le mais peu mais qu'on a parlé. Voilà,
ça prend du temps. Hein.
C'est
du boulot. Hein.
C'est du boulot. Non, mais surtout quand on va avoir un tel résultat. Donc, c'est effectivement du travail.
Là, il a dit quelque chose de très important. Il ne racontera des biographies que des gens qu'il connaît.
Mais bien entendu. Mais oui, c'est. Enfin, moi personnellement, j'ai l'impression que c'est le Bernard.
J'ai raconté ta biographie, t'inquiète pas.
Oui, c'est ça. Arnaud, merci beaucoup d'être toujours avec nous. Marc, à la semaine prochaine. Je ne cite pas les invités parce que je ne me souviens plus qui. Ah si, la semaine prochaine, on a Roland Pérez pour son livre. On n'a que des livres la semaine prochaine. Roland Pérez, nous avons
Caroline
Margeridon pour son livre aussi, de l'affaire conclue. Donc on va rigoler.
Et ce soir, vous retrouvez Marcialia.
Exactement. À bientôt.